Louange et remerciement à notre Dieu, car la culpabilité du péché a été effacée à Golgotha. Nous sommes heureux et nous savons qu'elle est acceptée, que nous sommes devenus libres et que nous lui appartenons pour le temps et pour l'éternité. Nous avons déjà entendu des paroles précieuses de la parole des psaumes et nous avons déjà entendu des cantiques précieux et nous sommes heureux de pouvoir être reliés à lui, au Dieu vivant. Nous pouvons lui parler et il nous parle. Bien-aimés, nous devrions prendre au sérieux toutes les paroles que nous lisons dans les Saintes Écritures, les croire de tout notre cœur et nous présenter devant lui avec crainte et tremblement. Car toute parole donnée l'a été par la bouche de Dieu. Les hommes n'avaient été utilisés que comme des récipients par le Saint-Esprit et devaient ensuite exprimer ce que Dieu voulait dire. Parfois, ce sont des hommes qui ont dû l'exprimer par des cantiques. D'autre part, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Mais nous voyons que ce que l'Esprit de Dieu a poussé, que ce soit par des cantiques ou dans la parole parlée, cela concorde. Et nous en sommes heureux et reconnaissants lorsque ce cantique ici, par exemple, chante et dit « Les promesses de Dieu demeurent, elles ne chancellent pas éternellement. » Jésus a scellé dans le sang ce qu'il promettait dans sa parole. Nous pouvons alors être sûrs que ces paroles sont vraies. Car il dit, le ciel et la terre peuvent brûler, la colline et la montagne peuvent disparaître, mais celui qui croit trouvera que la parole de Dieu reste pour toujours vraie. Bien-aimés, seul celui qui croit trouvera que la parole de Dieu reste vraie. Quelle est la vérité absolue? Et dans ce contexte, j'ai été frappé par la parole du prophète Ésaïe. Ici, l'homme de Dieu, Ésaïe, parle du verset 6 du chapitre 51. Ésaïe 51, verset 6. Levez vos yeux vers le ciel et regardez vers la terre en bas, car les cieux se dissiperont comme une fumée, la terre se dissoudra comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. C'est la parole merveilleuse de notre Dieu. Elle n'est pas sortie d'un Ésaïe, mais elle est sortie de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit est oui et amen. Nous l'avons chanté dans le cœur de ce cantique. Le ciel et la terre peuvent brûler, la colline et la montagne peuvent disparaître, mais celui qui croit trouvera que la parole de Dieu demeure pour toujours vraie. Bien-aimé, ce n'est pas seulement une parole, mais toute sa parole, celle qu'il a prononcée, qui demeure en effet. Et s'il est écrit ici, et que nous recevons l'invitation par son intermédiaire, au verset 6, « Levez vos yeux vers le ciel et regardez vers la terre en bas, car les cieux se fondront comme une fumée et la terre se désagrégera comme un vêtement. » Alors cela, c'est oui et amen. Et alors aucun des pouvoirs ou des dirigeants de notre époque n'y changera quoi que ce soit. Et aucun des sages, aussi sages qu'ils veuillent, qui veuille l'être, n'y changera quoi que ce soit. Mais nous savons qu'il a dit et que le moment viendra où sa parole s'accomplira. Nous sommes là dans la foi, dans le tremblement, mais au fond, nous n'avons pas à avoir peur. Nous tremblons en lisant sa parole et nous savons que sa parole est oui et amen. Bien-aimés, nous savons que sa bouche l'a dit et que ce qu'il a dit est en effet vrai. Bien sûr, ceux qui ne croient pas mourront comme des moustiques, mais ceux qui croient seront sauvés. Ils seront avec lui dans son royaume et dans sa gloire, car il a fait la promesse dans le Nouveau Testament. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre auprès de moi. Oui. Lesquels veut-il prendre avec lui, bien-aimés? Toutes? Tous? Tous? Non. Bien-aimés, seulement ceux qui lui ont donné la foi, ceux qui ont cru, seulement ceux qui lui ont fait confiance, seulement ceux qui l'ont reçu, accepté. Nous ne pouvons pas apparaître là. Si devant Dieu, si nous ne croyons pas, et il n'y aura là que des gens qui ont vraiment reçu toute sa parole, qui croient toute sa parole, qui ne se posent pas en juge, qui ne se posent pas en condamneur, mais qui, comme nous l'avons entendu hier soir, ont le cœur courbé, qui vont là en étant courbés, en étant humbles, en étant bas. Cela seront là-bas, au ciel. Comme le dit l'évangile de Matthieu, comme nous l'avons lu hier soir, nous étions tous là, n'est-ce pas? Ces paroles étaient trop précieuses et nous devons les prendre à cœur et ne pas... Il ne peut en être autrement, nous l'avons lu dans Matthieu 5. Bénis les pauvres en esprit. Et le frère Franck a déjà dit, nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir être spirituellement pauvres, pauvres en esprit, et que les gens nous appellent ainsi en réalité, et que nous puissions être réellement ainsi tels que les gens nous considèrent pauvres en esprit. Eh bien, mes chers, il faut bien que cette parole s'accomplisse, et ces jours-là, en ces jours-là, cet homme a prophétisé, et il ne savait même pas qu'il prophétisait correctement en vue de Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Parfois, les gens disent quelque chose sans savoir ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est juste, parce qu'il était grand sacrificateur en ces jours-là. Il devait prophétiser de telle manière qu'un seul devait mourir pour tout le peuple, n'est-ce pas étrange? Oui, et peut-être ne savait-il même pas ce qu'il disait, mais il devait le faire ainsi, le dire ainsi, le prononcer. Frères et sœurs, bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur sera donné. Oui, bien-aimés. N'est-ce pas là une promesse glorieuse? N'est-ce pas là une promesse glorieuse que notre Seigneur a faite? Le royaume des cieux nous sera accordé. Toi et moi, qui croyons de tout notre cœur, nous qui sommes pauvres en esprit, chers frères et sœurs, au fond, quelle joie devrait remplir nos cœurs. Et je crois que c'est le cas. Nous pouvons nous réjouir de sa parole, de ses promesses. Elle ne vacille pas éternellement. C'est dans le sang que Jésus a scellé ce qu'il promettait dans sa parole. Ce qu'il a dit a donc été scellé par le sang. Cela ne peut pas échouer. Cela n'échouera pas. Mais c'est ainsi que cela a été accompli. Et tout s'accomplira merveilleusement. Nous voyons que la parole de Dieu s'accomplira dans tous ses aspects, mais pas en un seul point comme nous l'avons lu ici, à savoir que seuls les cieux et la terre partiront en fumée et que tout et les hommes mourront. Mais tout le reste qui a encore été dit par la bouche des prophètes doit trouver son accomplissement. Et cela trouve aussi son accomplissement. Nous en sommes heureux et reconnaissants. Que Dieu continue à nous bénir, telle est ma prière. Je ne veux pas prendre la priorité sur mon frère. C'est toujours mon tour quand il n'est pas là, vous le savez tous. Et maintenant, il est là Et c'est pourquoi nous sommes heureux et nous voulons aussi nous souvenir de lui dans la prière, même s'il est ici devant, pour que Dieu puisse mettre cela dans son cœur et donner ce qu'il veut nous donner. Il a toujours besoin de quelqu'un. Il s'est choisi un instrument et nous en sommes heureux. N'êtes-vous pas tous contents? Heureux que les louanges et les remerciements soient rendus à son nom. Maintenant, le verset 5 du psaume qui m'est devenu très cher. Je voudrais le lire. Psaume 111, verset 5. Et il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient éternellement de son alliance. Psaume 111, verset 5. C'est tellement merveilleux et c'est la vérité absolue. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Bien-aimés, si nous le craignons, il nous a laissé de la nourriture en ces jours. Ne pouvons-nous pas être heureux et reconnaissants? Oh, nous sommes si heureux. Nous sommes si reconnaissants pour toute la précieuse nourriture qu'il a donnée. Il a pourvu aux besoins de chacun, même de ceux qui sont peut-être éloignés, qui n'ont pas toujours la possibilité d'assister aux réunions, mais il a si merveilleusement pourvu. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? Ne pouvons-nous pas en être heureux et reconnaissants? En effet, nos cœurs devraient être reconnaissants. Il se souvient de son alliance. Il a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours. Je ne vous abandonne pas. Et le voilà engagé envers sa parole, envers sa promesse. Et nous voyons, il tient ses promesses. Il tient sa parole. Et nous ne pouvons que remercier et louer Dieu. Psaume 111, verset 7. Psaume 111, verset 7 maintenant. Les œuvres de ses mains sont fidélité et droiture. Immuables sont tous ses commandements. Chers frères et sœurs, puisse Dieu continuer à nous parler par sa sainte et précieuse parole et par notre cher frère. Amen. Shalom. Shalom. Que la paix soit avec vous. Levons-nous encore et prions. Père céleste, nous sommes profondément touchés en ta présence, ô Dieu. Que tes voies sont merveilleuses, que tes jugements sont insondables. Tu as ta voix avec ton peuple, ô Seigneur. Je te prie de venir parmi nous d'une manière si puissante que nous puissions te vivre, te sentir, t'entendre et te voir. Je te remercie pour les paroles qui ont été lues. Ô Seigneur, qui sommes-nous pour que tu nous parles? Qui sommes-nous pour être rassemblés devant ta face et entendre ta voix? Seigneur, reçois aujourd'hui la louange, pas seulement de notre bouche, mais de notre cœur, du plus profond de notre âme. Notre âme loue le Seigneur. Notre esprit exulte en notre Dieu, car tu as regardé la bassesse de ton peuple, évité par les hommes, rejeté, mais accueilli par toi, reçu grâce par toi. Seigneur, bénis-nous. Sauveur bien-aimé, nous aimerions ressentir l'effet de ta parole sur nous-mêmes et l'accent que tu mets sur la nourriture que tu donnes à ton peuple et sur le souvenir de ton alliance éternellement. Tu n'as pas fait alliance avec le vent ou le temps, mais avec ton peuple. Ô Seigneur, quand tu te souviens de ton alliance, tu te souviens de ton peuple aussi, avec lequel tu as conclu l'alliance, auquel tu as fait des promesses. Seigneur, je te remercie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, et aussi pour nos chers frères et sœurs de Belgique. Bénis-les, ô Dieu. Oui, bénis-les tous dans toute l'Europe, à l'Est et à l'Ouest. Bénis Israël, ton peuple, pour lequel tu as fait et refait ta profession de foi, pour ce peuple que tu reconnais, mon Dieu. Nous bénissons tous ceux que tu as bénis et nous te prions de continuer à être avec nous par grâce au nom de Jésus. Amen. Grâce au lieu du jugement. L'amour et la grâce de Jésus. Grâce bien plus grande que mes fautes. Amen. Nous nous asseyons. C'est une grâce que nous puissions être ici et écouter la parole de Dieu, et pas seulement cela, mais aussi croire. Le fait que nous puissions nous laisser insérer dans le plan de Dieu n'est pas un mérite de notre part, mais vraiment une providence, une conduite du Dieu Tout-Puissant. De l'extérieur, nous percevons tout ce qui se passe. Et si nous comparons ensuite le message prophétique pour ce temps et l'ensemble des prédications de frère Branham avec ce qui se passe actuellement, alors nous remarquons que tout pousse à l'accomplissement. Je pensais particulièrement ce matin au peuple d'Israël, et quand les nouvelles ont annoncé que 40 000 personnes marchaient à travers la ville et protestaient et qu'ils voulaient rendre la région occidentale du Jourdain, ils voulaient la rendre et ainsi de suite. Alors il nous vient alors à l'esprit que même parmi le peuple d'Israël, il y en a suffisamment qui ne comprennent pas l'action de Dieu, qui ne s'inscrivent pas dans la parole et dans ce qui y est écrit, mais qui vont dans la rue au lieu de rentrer en eux-mêmes pour connaître les voies de Dieu. Nous savons que c'est écrit, et quand il est écrit que même si le peuple d'Israël serait comme le sable de la mer, seul le reste y sera sauvé. Ésaïe 10, verset 22. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont donc pas déjà le véritable Israël, mais ceux qui le sont en esprit, selon leur nature, en fait, selon la parole de Dieu. Mais tout doit certainement se passer ainsi, afin qu'un peuple ne s'attribue rien à lui-même, mais qu'il doit finalement tous ses remerciements au Dieu vivant. Le peuple de Dieu, en l'occurrence Israël, ne pourra pas non plus dire notre premier ministre, mais devra dire à la fin, voilà notre Dieu en qui nous avons mis notre espérance. Voilà le Seigneur en qui nous avons mis notre attente. Voilà l'aide qu'il nous a apportée. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Nous sommes déjà dans cette situation, même lorsque nous lisons le journal ou écoutons les informations. Nos pensées et nos cœurs ont un lien avec la parole de Dieu. Même en écoutant les nouvelles, et nous entendons plus et nous lisons plus que n'importe quel non-croyant peut entendre et lire. Est-ce vrai ou non? Je pense que c'est un grand privilège que Dieu nous a donné en ce moment. De notre côté, nous ne regardons pas non plus complètement les choses qui se passent ainsi autour de nous. Nous ne voulons pas nous occuper de toutes les autres choses pour l'instant, mais nous le ferons par écrit à l'occasion, car tout s'imbrique dans tout. Notre frère a lu le psaume 111 en introduction. Oh, quelle parole merveilleuse! Au chapitre 1, il est écrit « Alléluia, je louerai le Seigneur de tout mon cœur dans le cercle des pieux et dans l'assemblée. » Puis le pont a été jeté vers Ésaïe, chapitre 51. Et vous me connaissez et vous savez que je lis avant et je lis après. Juste avant, il est écrit au verset 4. Écoutez-moi, mon peuple. Ésaïe 51, verset 4. Vous, et prêtez-moi l'oreille, vous, mon assemblée, car l'instruction sortira de moi et j'établirai ma justice pour éclairer les peuples. Ici, Dieu nous parle. Ici, il s'adresse à nous. Ici, nous sommes invités à l'écouter, à être attentifs à lui et à ce qu'il dit. Écoute-moi, mon peuple. Et nous pouvons dire que le peuple de Dieu n'écoutera pas n'importe quelle voix, mais la voix de Dieu le Seigneur. Et cette voix est toujours sa parole et rien d'autre. Écoutez-moi. Écoute-moi, mon peuple. Le Seigneur ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne s'adresse pas à une nation. Il s'adresse à son peuple qui est appelé à sortir de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Et il dit, écoutez-moi, mon peuple. Toi, mon peuple. Et prêtez-moi l'oreille, vous, l'assemblée de mon peuple. Le Seigneur à une assemblée qui se compose de son peuple. Et cette assemblée est l'église des premiers-nés, Jésus-Christ, le premier-né. Et comme Paul l'expose dans l'épître aux Hébreux, nous sommes venus à l'église des premiers-nés, des justes accomplis, et ainsi de suite. Hébreux 12, verset 23. Ainsi, une assemblée réunie en tant que peuple de Dieu écoute ce que le Seigneur dit et obéit. Non seulement elle écoute, mais elle obéit. Et frère Branham a associé le mot foi à l'obéissance. Et je pense que nous devons faire de même. La foi et l'obéissance vont de pair. Si la foi reste une théorie, ce n'est pas de la foi, mais un vain aveu du bout des lèvres. Dès l'instant où la foi est remplie de la vie, est remplie de vie divine, elle a une raison d'être. Verset 4. Écoutez-moi, mon peuple, et prêtez-moi l'oreille. Ésaïe 51, verset 4, il relit, « Vous, mon assemblée, car l'instruction sortira de moi, et j'établirai mon droit pour éclairer les peuples. » Et ensuite, du verset 7, « Écoutez, moi, vous qui connaissez et aimez la justice, vous, le peuple, dans le cœur duquel ma loi habite, ne craignez pas les railleries des hommes et ne vous effrayez pas de leurs injures. Verset 8, car la teigne les rongera comme un vêtement et le cafard les dévorera comme de la laine. Mais ma justice subsistera éternellement et mon salut de génération en génération. Ce ne sont pas seulement les cieux et la terre qui seront affectés, comme nous l'avons entendu. Je le lis encore une fois. Verset 6, levez vos yeux vers le ciel et regardez vers la terre en bas, car les cieux se dissiperont comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants mourront comme des moucherons. Mais mon salut subsistera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Et puis nous avons lu, car la teigne la rongera comme un vêtement. Ce n'est pas seulement le monde, mais tous ceux qui n'ont pas cru Dieu, qui ne sont pas entrés en eux-mêmes, qui ne se sont pas répentis et ne se sont pas inclinés sous sa main puissante, qui subiront en ce jour le même sort que cette terre. C'est écrit dans le psaume, c'est écrit dans le psaume 102, dans les derniers versets du verset 26. Psaume 102, verset 26, autrefois tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 27, ils passeront, mais toi tu demeureras. Ils tomberont tous en ruine comme un vêtement. Tu les changeras comme un vêtement et ainsi ils se transformeront. Verset 28, mais toi tu restes le même et tes années ne finissent pas. Ensuite, il a été souligné que les promesses de Dieu trouveront leur accomplissement. Permettez-moi de lire quelques passages de Romains 15 à ce sujet. Romains 15 à partir du verset 5. Je m'intéresse surtout au verset 8. Romains 15 du verset 5 au verset 8. Mais que le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Verset 6. Afin que d'un commun accord, tous ensemble, vous puissiez d'une seule bouche glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7, c'est pourquoi acceptez-vous les uns les autres avec amour, comme Christ vous a aussi accepté pour la gloire de Dieu. Verset 8, je veux dire que Christ est devenu serviteur de la circoncision pour prouver la véracité de Dieu afin de réaliser les promesses faites au Père. C'est sur ce point que nous voulons mettre l'accent. Tout ce qui a trait au Christ est lié à la réalisation, à la confirmation du plan de salut de notre Dieu. Et ce plan consiste à confirmer, à réaliser les promesses faites à nos pères. Dieu a un plan et il le met en œuvre. Et nous pouvons faire partie, nous pouvons dans nos jours être une partie de ce plan divin. Mais nous devons nous laisser intégrer dans ce plan divin de salut. Nous savons que lors de la première venue du Seigneur, lorsque les promesses ont commencé à s'accomplir et que le plan de Dieu a suivi son cours, il y avait beaucoup de gens qui lisaient dans les Écritures, et parmi eux, il y avait Saul de Tarse, qui était assis au pied d'un certain Gamaliel, et il ne savait rien de ce qui se passait autrefois. Mais il y avait aussi ceux qui connaissaient le ministère de Jésus. Ils lui envoyèrent des scribes et des délégations, même déjà à Jean, pour lui demander qui il était. La réponse était alors, « Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, le Messie, si tu n'es pas le prophète, si tu n'es pas Élie ?» Vous connaissez tous ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 1. Je n'avais plus besoin de le lire, mais je le fais quand même. Peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Il est dit ici au verset 24, Jean 1 du verset 24. Les envoyés étaient d'entre les pharisiens, verset 25, et lui demandèrent encore, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Verset 26, Jean lui répondit, « Moi, je ne baptise que d'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Verset 27, « Qui vient après moi, et pour lequel je ne suis pas assez bon pour délier la courroie de ses souliers. » Et vous pouvez continuer à lire, mais il y avait là des gens qui ont fait des recherches, qui ont même envoyé chercher des renseignements. En quoi cela les a-t-il aidés? En quoi cela leur a-t-il été utile? Combien sont venus voir aussi frère Branham? Qui a vu le petit film de la fin de l'année? Ces deux jeunes hommes qui venaient du grand temple de Los Angeles, qui peut contenir environ 6000 personnes, où frère Branham a parlé assez souvent. Et ils sont venus, ils ont été impressionnés et ils ont demandé qu'est-ce que ce grand ministère a comme signification, et ils ont remercié pour l'interview et ils sont repartis. Bien-aimés, ce n'est pas l'impression que nous avons sur le moment qui compte, mais si derrière tout ce que nous avons entendu de nos oreilles et vu de nos yeux, nous entendons la voix de Dieu et savons que derrière un ministère biblique se trouve Dieu lui-même et qu'il poursuit ainsi un but et un objectif. Il ne suffit pas de se demander de quoi il s'agit, mais il faut y ajouter la révélation par l'Esprit. La révélation par l'Esprit doit s'ajouter. Paul écrit ici dans Romains 15, verset 8, « Je veux dire en effet que Christ est devenu serviteur de la circoncision pour prouver la véracité de Dieu, afin de réaliser les promesses faites au Père. » Il devait être placé sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Nous pourrions maintenant lire un certain nombre de passages bibliques, en particulier dans Romains, dans le 4e chapitre, dans l'Épître aux Galates, où Paul expose et dit, « Abraham a-t-il été justifié par les œuvres ou a-t-il été justifié par la foi ?» Puis Paul écrit, « Comment pourrait-il l'être par les œuvres alors que la promesse lui a été faite 430 ans à l'avance avant que la loi ne soit donnée ? » Qu'est-ce que tout cela? Chaque point a sa raison d'être. La loi de Dieu a sa place jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pourrions pas nous reconnaître comme pécheurs et donc ne jamais être sauvés si la loi n'était pas venue et ne nous avait pas convaincus de péché. Car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Et là où il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de châtiment. Et là où il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de mort. Et ce qui vient après. Donc, Dieu, dans sa grâce, qui avait prévu de faire en sorte que l'humanité soit sauvée par la foi, devait quand même donner la loi pour permettre aux hommes de reconnaître leur état déchu et donc d'accepter le salut et d'avoir ainsi la possibilité d'être sauvé. La possibilité du salut. Combien d'entre vous comprennent cela? Le salut n'était pas possible autrement. L'homme était tout de même tombé, mais il ne pouvait pas reconnaître son état de chute à moins que la loi ne soit venue. Et c'est ainsi que Paul écrit, la loi est donc une bonne chose, car elle est devenue notre éducatrice pour Christ. La loi nous condamne si durement et le châtiment est à peine supportable. Mais ensuite est venu celui qui a prononcé la loi sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. À l'époque, il était encore Yahvé dans le corps spirituel. Puis, il s'est débarrassé de ce corps spirituel et est devenu Jésus-Christ, le même je suis de l'Ancien Testament, et il a pris sur lui le châtiment qu'il avait lui-même annoncé là-bas lorsqu'il a donné la loi. Toute la malédiction, avec toutes ses conséquences, jusqu'à la mort, jusqu'à l'enfer. Il a tout pris sur lui, lui le législateur. Et c'est pourquoi il est écrit dans le Nouveau Testament, un seul est législateur et juge, lui notre Seigneur. Jacques 4, verset 12, pas deux. Celui qui est législateur est aussi juge, et le juge est aussi devenu rédempteur. Il est tout en tous. Il a pris sur lui son propre jugement, qu'il a lui-même prononcé. Le châtiment était sur lui, afin que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Oh, qui peut comprendre tout cela? Pour nous, qui sommes devenus croyants, qui nous savons aimés de Dieu, et qui nous savons avoir reçu grâce, oui, on ne trouve pas de mots pour décrire tout ce que Dieu a fait pour nous, en nous et sur nous. Quand sera-t-il lorsque nous entrerons dans la gloire et que nous ne verrons, n'entendrons ou ne ressentirons plus rien de la chute, de la souffrance, de tout ce qui s'est passé sur terre? Mais que nous serons unis à Dieu pour l'éternité, unis à lui parce qu'il nous a aimés en nous appelant à sortir et qu'il a veillé à ce que les promesses de Dieu faites au Père trouvent leur accomplissement en Christ et continuent à trouver leur accomplissement dans l'Église. C'est en effet avec Christ que l'événement du salut a commencé. Mais avec l'Église de Christ, il prend fin. Il est la tête et nous sommes les membres. Nous sommes ensemble. C'est une unité divine. Il, lui, le premier-né, parmi de nombreux frères, et il est déjà écrit de lui dans le psaume 22, verset 23. Alors je ferai connaître ton nom à mes frères. Psaume 22, 23. Et c'est ce qu'il a fait de manière glorieuse. Il nous a révélé le nom de Dieu qui est associé au salut et à la rédemption. Et ce nom est et reste celui de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné aux hommes sous le ciel pour lequel ils puissent être sauvés que le nom de Jésus. Et ce nom est lié au salut, à la guérison, au pardon, à la réconciliation, à tout ce que Dieu nous a donné en général. C'est pourquoi il est écrit, Romains 8, verset 32, « Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Pas seulement quelque chose, mais tout. Le pardon, le salut, la grâce, la vie éternelle, jusqu'à ce que nous puissions voir sa face. Et ce qui n'était et n'est rien devant le monde, Dieu l'a choisi pour l'attirer à lui et faire de nous quelque chose. Une autre parole que je voudrais lire est ici dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et ce serait les versets 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Comme c'est merveilleux, ce n'est ni toi ni moi, ce n'est pas ton effort ni le mien. Celui qui a commencé achèvera. Celui qui a appelé à sortir préparera. Celui qui a fait la promesse et qui est allé préparer la place reviendra pour nous ramener à la maison. Aussi sûr qu'il est parti, aussi sûr qu'il reviendra pour nous, aussi sûr qu'il est parti, aussi sûr il reviendra pour nous prendre là où il est déjà aujourd'hui. Et nous pouvons nous en réjouir malgré toutes les détresses et parfois aussi tous les soucis. Vous savez que l'on peut si bien chanter dans le cœur, je remets sur lui tous mes soucis et on peut aussi le dire un peu plus facilement dans une prédication. Comme il est ensuite plus difficile de le prouver dans les faits. Si les choses vont pour vous comme pour moi, il y a alors une paix profonde qui pénètre dans notre cœur et nous savons qu'il fera tout bien. Je ne sais pas qui c'était pour le moment, mais un frère quelconque m'a dit récemment, frère Franck, tu a prêché plusieurs fois sur Job. Attends-toi aussi avec patience. Ce qui compte, c'est la fin et pas ce qui est maintenant. Pour moi, c'était un baume pour mon âme. Vous savez que chacun peut tirer vers le bas, que chacun peut contribuer d'une manière ou d'une autre à tirer les autres encore plus vers le bas. Mais que Dieu nous donne, à toi et à moi, un cœur rempli de son amour, afin que les bonnes paroles soient prononcées au bon moment, de la bonne manière, ce qui permettra à l'autre d'être consolé, relevé, voire même fortifié par les paroles que Dieu peut prononcer à travers des individus. Il nous est dit ici, mais lui-même, le Dieu de paix, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est lui qui accomplit cette œuvre. Il nous présentera devant sa face à son retour totalement irréprochable d'esprit, d'âme et de corps. À son retour. Alléluia. C'est la sainte parole de Dieu et nous serions insensés de ne pas croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite ici. Dieu est capable de faire plus que ce que nous pouvons demander. Mais une chose est sûre, il fera au moins ce qu'il a promis dans sa parole. Nous pouvons tous nous y fier. Et c'est la consolation. C'est justement ici la consolation que nous apportent les Saintes Écritures. Nous aurions pu relire ces versets dans l'Épître aux Romains. Verset 5, Romains 15. Romains 15, verset 5. Mais que le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation vous donne. Et avant cela, il est écrit, peut-être devrais-je encore lire le verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit dans les temps passés, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Saintes Écritures, nous persévérions dans l'espérance. Verset 5, que le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation vous donne d'avoir les uns envers les autres les mêmes sentiments selon Jésus-Christ. Comme c'est merveilleux. Non pas une consolation donnée par frère Franck ou bien par frère Rousse, par frère Schmitt ou bien par un autre frère, mais une consolation divine que Dieu nous donne par sa sainte parole révélée pour ce temps et que nous agissions alors les uns avec les autres et les uns pour les autres, à la manière de Christ, que nous compatissions comme il a compati, que nous souffrions comme il a souffert, et que nous entrions les uns pour les autres dans la brèche, dans la déchirure, comme il a fait pour nous tous. Cela nous relie au thème d'hier soir, à savoir qu'une semence de qu'une semence est semé dans la justice et la paix pour tous ceux qui font la paix, qui font la paix. Jacques 3, verset 18. Et c'est bien Dieu qui a mis la paix dans notre cœur. Ce n'est plus l'océan mondial agité qui se déchaîne en nous, mais nous pouvons chanter dans la foi et la véracité comme nous l'avons fait hier soir, quand la paix avec Dieu pénètre mon âme. Et lorsque l'ennemi se dresse, qu'une tempête survient et que les vagues se déchaînent, le Seigneur est proche. Il est pourtant dans la même barque. Notre Seigneur était bien dans la même barque que les disciples, n'est-ce pas? Ou est-ce que je ne vois pas bien? Est-ce que je vois bien? Est-ce que je m'en souviens bien? Notre Seigneur était dans la même barque. Permettez-moi de dire ici aujourd'hui, notre Seigneur est dans la même barque que nous. Et si nous avons parfois l'impression qu'il ne s'y passe rien, et qu'il dort, laissez-moi vous dire qu'il ne fait qu'attendre le moment où nous l'invoquerons et où nous serons dépendants de son aide, où nous avons tout essayé et rien n'a plus fonctionné. Le dernier espoir est passé par-dessus bord et le bateau ou la barque a menacé de couler. Ce n'est qu'alors qu'ils ont fait appel au Seigneur, mais il était, comme nous l'avons dit, dans leur barque. Et c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui croire que le Seigneur a donné à son Église. Il est en effet la tête, et je ne sais pas ce qui se passe quand on sépare la tête du corps. Qu'est-ce qu'on a alors? Ni l'un ni l'autre. Juste une chose morte dont personne ne peut rien faire. L'Église et son Seigneur, les rachetés et le Rédempteur sont ensemble, sont inséparables, ils forment une unité divine. Lorsque les tempêtes font rage, comme l'ont parfois chanté nos frères et sœurs, et que les vents soufflent, je ne fais que lever les yeux vers le haut, là où se trouvent les étoiles et encore un peu plus haut, vers le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et nous nous demandons, une fois la tempête apaisée, qui est celui-ci à qui même le vent et les vagues sont obéissants et soumis? Marc 4, verset 41. Et nous connaissons tous la réponse. C'est notre Seigneur qui se soucie de nous. Il y a une chose qu'il n'aurait pas pu supporter, c'est de périr, lui et ses disciples. Cela aurait été la dernière chose. Jamais cela n'arrivera. Et si on arrive au point de ne presque plus voir le bateau ou la barque, de ne plus voir que la tempête et les vagues, et de devoir penser en tremblant, « Oh mon Dieu, maintenant tout est vraiment fini. » Non, ce n'est que le début alors, c'est maintenant même que ça commence, car c'est alors que notre Seigneur se lève. Et quand il se lève, tout le reste doit se reposer quelque part. Il prononce la parole toute puissante, toute puissante. En ces jours aussi, ce que Job a dit en son temps s'accomplira. Le Seigneur, mon Rédempteur, sera le dernier à se tenir sur la terre, et je le verrai même quand mon corps aura entièrement disparu. Je verrai Dieu, je ne le verrai pas comme un étranger, n'est-ce pas merveilleux? Job 19, verset 25. Dieu nous connaît et nous le connaissons. Que la consolation pour toi et la consolation pour moi, la consolation dans ta situation et dans la mienne, la consolation pour nous tous ne vienne pas d'un homme, mais de Dieu ce matin, dans ta vie et dans la mienne, par sa parole et par son esprit. Après tout, notre Seigneur est avec nous. Nous sommes dans la même barque. Et si nous coulons, il coule. Et alors, tout est fini. Et cela ne peut jamais être. Au contraire, je peux vous dire que ceux qui périront, ce sont les ennemis du Seigneur. Nous l'avons déjà vu clairement dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu le Seigneur, de manière majestueuse, a fait en sorte que son peuple traverse la mer Rouge et que les ennemis du peuple de Dieu se sont précipités à sa suite, en déployant toute leur puissance militaire, il s'est passé quelque chose de tout à fait terrible ou de tout à fait merveilleux. On peut voir cela comme quelque chose de terrible pour les uns, de merveilleux pour les autres, la vie pour les uns, la mort pour les autres. Mais il s'est passé quelque chose. Lorsque les ennemis se sont lancés sur la voie de Dieu, à la poursuite du peuple de Dieu, ils ont péri. La voie de Dieu, comme vous pouvez le lire dans le prophète Ésaïe, est réservée seul au peuple de Dieu et aucun impur n'y marchera. Ésaïe 35, verset 8. Le chemin que Dieu trace pour son peuple mène au but, mène à la victoire. Et c'est un chemin glorieux. Mais ce chemin n'est pas fait pour que les ennemis de Dieu, le peuple de Dieu, les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu se précipitent à sa poursuite pour le détruire. Sur ce chemin, C'est sur ce chemin qu'ils périssent et sont recouverts par les vagues. Notre Seigneur l'a fait à l'époque avec Israël, là avec ses disciples. Et maintenant, à la fin, il le fera avec nous. Je peux le croire. Je peux le croire que notre Seigneur ne dort pas. Peut-être se repose-t-il un peu. C'est possible, je ne veux pas le nier, mais qu'il ne dorme pas, vous pouvez me croire. Le gardien d'Israël ne dort pas, ne sommeille pas. Et il n'est pas non plus un Dieu mort. Il n'est pas non plus un Dieu silencieux. Parfois, nous devons attendre patiemment son aide. Mais faites-le. Comme pour Job, attendre patiemment l'aide du Seigneur sera payant pour nous tous. Il y a cette parole magnifique. J'allais dire dans le prophète Hébreu, mais dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, il est écrit, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre joyeuse confiance, car elle vous vaudra une grande récompense. » Verset 35, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérer afin d'obtenir après l'accomplissement de la volonté divine le bien promis. » Ainsi, Dieu a fait des promesses. Elles ne chancellent pas éternellement. C'est dans le sang que Jésus a scellé ce qu'il promettait dans la parole. Et comme je l'ai peut-être déjà exprimé tout à fait inconsciemment dans ma prière, Dieu n'a pas conclu l'alliance avec le vent et les intempéries, mais avec son peuple qui doit passer à travers toutes les intempéries. Que le soleil brille, qu'il y ait du tonnerre et du fracas, que les torrents veuillent presque nous noyer. Il est encore écrit dans Ésaïe 43, « Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. » Ésaïe 43, 2. Tout est démontré. Notre Dieu a un peuple sur la terre. Et ce peuple doit passer par des voies difficiles comme lui a dû passer par des voies difficiles. Des soupçons de toutes sortes ont été portés contre lui. Homme de douleur, on ne pouvait le regarder, car il avait un aspect différent de celui des enfants des hommes. Tous les autres s'en allaient joyeux, le monde était en ordre pour eux. Mais un seul s'en allait, et c'était l'agneau de Dieu. Lui, l'homme de douleur, qui a tout pris sur lui. Il est parti, incompris par le peuple, mais aimé de nouveau de tout leur cœur par ceux qu'il a aimés. Et à la fin, nous ne nous souviendrons plus de toutes les tribulations et difficultés, mais nous nous réjouirons avec le Seigneur pour toujours. Et alors, tout en aura valu la peine, chers frères, chères sœurs, chers cœurs. Accepte-le aujourd'hui de la main de Dieu. Laisse-toi relever, laisse-toi fortifier et consoler par Dieu et sa parole. Une grande récompense t'attend aussi. Ne rejette pas ta confiance. Tiens bon. Et ne te décourage pas et ne te plains pas, car le Seigneur ne prend pas plaisir à ceux qui se découragent, se plaignent et qui reculent. Hébreux 10, 38, au plus profond de la détresse et de la misère, quand les tempêtes grondent autour de nous et que nous sommes sur le point de sombrer, nous entendons soudain une voix douce qui nous dit, j'ai le pouvoir dans les cieux, j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Puis il prononce la parole de puissance et alors tout change. Parfois, cela prend plus de temps que nous ne le souhaiterions. Et pourtant, ce temps de préparation sera aussi d'une grande importance pour nous tous. D'une grande importance, d'une grande signification pour nous tous. En tant que disciples du Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le même bateau que lui. Ce qui nous arrive, lui arrive. Ce qui nous arrive, lui arrive. Et pour que vous ne pensiez pas que je l'ai inventé de toutes pièces, notre Seigneur lui-même dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Notre sort est son sort. Nos problèmes sont ses problèmes. Il a pris la responsabilité de nous. Il se souvient de son alliance pour toujours, éternellement. Il a scellé et confirmé par son sang. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour moi, ce matin, cet évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, un message de joie pour nous qui avons parfois un peu de mal à passer à travers certaines choses. Mais nous avons l'honnêteté suffisante de le reconnaître. Et ce faisant, nous dépendons de l'aide de Dieu et savons qu'il ne nous la refusera pas. Puisse le Seigneur résumer lui-même ses paroles et les révéler dans notre cœur afin que nous l'invoquions quand même. Oh, invoque-moi au sein de la détresse et je te délivrerai. Psaume 50, verset 15. Il est proche, il est présent. Il veut nous faire savoir aujourd'hui, même si vous vous sentez abandonné, même si vous pensez que je ne fais rien, même si vous avez l'impression que je me tais et que je ne réponds pas et que je me soucie pas, soyez rassurés. J'attends seulement le moment et alors ma parole de puissance sera donnée. Ainsi, nous accorderons toute notre confiance à notre Seigneur et dirons Dieu fidèle. Nous te remercions de t'être ainsi incliné vers nous. Cher cœur, ne t'enflamme pas, ne te décourage pas. Laisse Dieu te consoler aujourd'hui par sa parole et par son esprit. Qu'il prenne notre destin entre ses mains. Nous sommes assis dans la même barque. Celui qui a commencé achèvera, il exécutera, il achèvera, il accomplira et nous placera devant sa face glorieux, irréprochable, sans tache, couronné de grâce et de miséricorde. Accepte-le donc. Et ensemble, nous voulons maintenant remercier notre Dieu du fond du cœur. Amen.
Levons-nous et adorons.
Père céleste, nous te remercions ensemble pour ta sainte et précieuse parole qui a été adressée à nos cœurs ce matin aussi, ô Seigneur. Tu nous as montré le chemin de la vérité en cette heure et pour cela, nous ne pouvons qu'élever ton nom et t'offrir nos remerciements et notre adoration, Seigneur, car à toi seul revient tout honneur, toute gloire, tout remerciement et toute louange, car tu es notre Seigneur, tu es notre guide, tu es notre conducteur, tu es notre consolateur, tu es devenu pour nous tout en tous. Seigneur, nous sommes si heureux, Seigneur, de pouvoir t'écouter. Écoutez-moi, vous, mon assemblée du peuple. Seigneur, qui devons-nous écouter? Il y a tant de voix qui se font entendre, mais nous voulons seulement écouter ta voix. Et ta voix, Seigneur, sort de ta parole. Seigneur, gloire à ton nom merveilleux et glorieux. Que nous lisions dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, Seigneur, tu nous parles, Seigneur. Nous t'adorons et louons ta grâce, Seigneur, qui nous a été accordée. Tu es fidèle à ta parole. Tu te tiens à ce que tu as dit. Tu es fidèle à tes promesses, à ta parole, ô Seigneur. Que la louange, l'honneur et la gloire et l'adoration te soient apportées pour ce temps et pour l'éternité. Seigneur, nous sommes tous ici. Nous nous tenons devant ta sainte face et nous te rendons gloire, louange et remerciement pour tout ce qui est bon, pour tous les pour tout le bien que tu nous as fait, pour l'alliance que tu as conclue avec tes élus, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, alléluia. Nous sommes ton peuple, Seigneur, le troupeau de ta main. Ô Seigneur, nous pouvons entendre tes paroles, les paroles de ton alliance, alléluia. Reçois, Seigneur, encore une fois, l'adoration de notre cœur et de notre bouche à tous. Seigneur, Seigneur, nous te confions tout. Seigneur, tous nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, Seigneur. Alléluia. Bénis-les tous, Seigneur. C'est ma prière et notre prière à tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.